20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. C'est sans doute l'une des productions lyriques les plus attendues de la saison parisienne. Nixon in China de John Adams. Les plus attendues non seulement parce que l'œuvre fait enfin son entrée au répertoire de l'Opéra de Paris, mais aussi parce qu'elle réunit deux des plus grandes voix américaines, René Fleming et Thomas Sampson. Et ils seront tous les deux à notre micro ce soir. Ils nous raconteront leur belle et longue amitié, leur conception du couple Nixon qu'ils incarnent ici et leur passion, leur engagement pour la musique américaine. Cela le temps d'un rapide coup d'œil sur l'actualité musicale et on commence avec une belle nouvelle, avec un soulagement, le volte-face de la BBC qui suspend son projet de suppression des BBC Singers. Il faut dire que l'annonce de ce projet avait suscité un vif mouvement de protestation dans le monde de la musique outre-Manche. Une pétition en ligne avait recueilli près de 150 000 signatures et des dizaines de compositeurs et de chefs avaient rédigé des lettres ouvertes allant jusqu'à envisager de boycotter les BBC Proms. La direction de la BBC déclare explorer des options alternatives pour assurer l'avenir de l'ensemble. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Marie Jacquot vient d'être nommée première chef invitée de l'Orchestre symphonique de Vienne, un poste qu'elle occupera à partir de la saison 2023-2024. Une nouvelle consécration pour cette brillante musicienne française de 33 ans qui prendra également dans quelques mois ses fonctions de chef principal du Théâtre danois de Copenhague. Elena Bashkirova et ses amis nous restituent l'esprit du Festival de Jérusalem cette semaine à la Cité de la Musique à Paris. Deux rendez-vous de musique de chambre, mardi et mercredi, autour de la figure de Fanny Mendelssohn, dont des leaders, mais aussi le quatuor et un trio, seront mis en regard avec des œuvres de son frère Félix et de Mozart. Elena Bashkirova sera entourée de son fils, le violoniste Michael Barenboim, mais aussi de l'altiste Adrien Lamarca, de la violoncelliste Astrid Cyranoussian, du clarinettiste Pascal Moragues ou encore de la soprano Moïka Erdmann. Une autre merveilleuse pianiste et elle aussi avec ses amis à l'honneur dans l'actualité musicale, Maria Jouan-Aupirèche. Le festival Les Coups de cœur de Chantilly lui a donné carte blanche pour le week-end prochain des 1er et 2 avril. Trois concerts qui se tiendront dans le dôme des grandes écuries du domaine de Chantilly, mais aussi à la galerie de peinture, des concerts que Maria Jouan-Aupirèche partagera avec le violoniste Augustin Dumay, le violoncelliste Steven Isserlis, l'altiste Miguel da Silva, mais aussi le pianiste Ido Barchai dans des programmes qui mettront à l'honneur Schumann, Grieg, Debussy, Franck, Schubert, comme Beethoven.
Thank you.
Le premier mouvement de la cinquième sonate pour violon et piano, Le Printemps de Beethoven, par Augustin Dumay et Maria João Pires, une sonate qu'ils joueront tous les deux dimanche à Chantilly, dans le cadre du week-end Coup de cœur à Chantilly, qui sera donc dédié au coup de cœur de Maria João Pires, samedi et dimanche.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Nixon in China, l'opéra de John Adams, est à l'affiche depuis samedi à l'Opéra Bastille, une somptueuse production mise en scène par Valentina Carrasco, qui était notre invitée il y a peu dans ce journal du classique, dirigée par Gustavo Dudamel et avec, dans la distribution, le baryton Thomas Sampson et la soprano Renée Fleming, qui font leur grand retour sur la scène parisienne où ils n'étaient pas revenus depuis plusieurs années. Ils incarnent ici le couple Richard et Pat Nixon dans cette œuvre qui met en scène un événement politique et historique, la visite du président américain en Chine en 1972 et sa rencontre avec Mao. Un événement que Valentina Carrasco, comme elle nous l'avait confié, a choisi de mettre en regard avec le terrible contexte de la révolution culturelle et de la guerre du Vietnam, mais aussi de rencontres entre les équipes de ping-pong américaines et chinoises, donnant lieu ici à de saisissantes et très chorégraphiques batailles de balles de ping-pong. Ping-pong. Alors je suis allée rencontrer il y a quelques jours dans leur loge de l'Opéra Bastille Thomas Sampson et Renée Fleming et ils m'ont confié notamment l'immense bonheur qu'ils ont à chanter ensemble, qui plus est dans une œuvre du répertoire américain qu'ils affectionnent particulièrement. Alors Thomas Sampson et Renée Fleming, on se réjouit de vous retrouver ensemble sur scène ici à l'Opéra de Paris. Vous êtes des amis, des partenaires de longue date. Quel plaisir avez-vous aujourd'hui encore à partager la scène ?
Il y a peu de personnes avec lesquelles je préférerais davantage être sur scène que Renée Fleming. J'ai beaucoup de collègues que j'apprécie, mais au fil des années, René et moi avons eu la chance d'interpréter beaucoup de répertoires différents, drôles ou dramatiques. Nous avons eu des carrières parallèles. Je suis juste un petit peu plus âgé qu'elle, mais c'est un grand plaisir d'être ici et d'être avec René.
Oui, je suis complètement d'accord. Nous avons abordé des répertoires intéressants, de la création, La Veuve Joyeuse, Thaïs, et maintenant c'est notre quatrième opéra. Ah oui, avec Arabella, bien sûr. Oui, donc le cinquième opéra déjà. Il y a peut-être une seule autre personne avec laquelle j'ai chanté plus d'opéras dans ma carrière, ça devrait être Suzanne. Oui, c'est une joie absolue. Il est brillant, grand, beau. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour un partenaire ?
Et vous avez tous les deux des liens très forts avec cette maison, l'Opéra de Paris, où vous avez beaucoup chanté, pas forcément ensemble, mais en tout cas, vous avez laissé de grands souvenirs. Qu'est-ce que cette maison représente pour vous ?
J'adore l'Opéra de Paris. J'adore venir à Paris. C'est frustrant cette fois parce que je ne suis pas venu ici depuis un certain temps. Avant, j'ai fait beaucoup de répertoires français. Tous les collègues parlaient donc français, alors je m'étais beaucoup amélioré. Mais maintenant, pratiquement aucun des collègues ne parle français, sauf René. Nous avons un texte en anglais qui, en plus, peut être difficile. Ainsi, je ne suis pas du tout baigné dans la langue française. Mais j'apprécie, ici, de pouvoir parler en anglais. Sinon, c'est vraiment l'un des opéras les mieux gérés et les plus importants au monde aujourd'hui. J'aime beaucoup Alexander Neff et le fait qu'il ait fait venir Gustavo Dudamel était une décision de génie. C'est intéressant car avec toutes les tensions actuelles liées aux grèves et aux contrats sociaux en France, il y a tout de même une bonne atmosphère d'art et de travail dans cet opéra. Tout le monde travaille bien, les syndicats se comportent bien. L'opéra est très sérieux dans ce qu'il fait et c'est un plaisir d'être ici.
Oui, pour moi aussi, l'opéra de Paris est très important. Il y a quelques années, je chantais ici presque chaque année. J'ai fait plusieurs nouvelles productions, principalement avec Robert Carson. Il y a eu Manon également et mes enfants étaient ici avec moi. J'ai eu un appartement pendant longtemps ici. Nous aimons tous Paris, c'est une deuxième maison.
Forward to light is the first step of all our youth, of all nations' youth. Our duty is to show them both their future and our past. The flame and the noon glare, how they inspire our poor tired bones, put us in mind of our forgotten dreams. We send children on our crusades. We bring children, our countries, right or wrong, then we retire. Fathers and sons, let us join hands. Let us join hands. Let us join hands. Make peace for once. Fathers and sons, let us join hands. Let us join hands. Let us join hands, make peace for once. History is our mother, we best know.
Alors, René Fleming et Thomas Sampson, vous êtes ici réunis à l'Opéra de Paris pour chanter cet opéra de John Adams, Nixon in China, qui fait son entrée au répertoire de l'Opéra de Paris. Il n'avait jamais été joué dans cette grande maison. C'est une fierté particulière d'être associé à cet événement, à cette entrée au répertoire.
Oui, je suis très heureux d'avoir été invité. L'idée vient entièrement d'Alexander Neff, qui a initié une série d'opéras américains. Il m'avait déjà invité l'année dernière pour Bernstein, mais je n'avais pas pu venir parce que je faisais une autre création à Zurich. J'étais donc très déçu. Nixon in China, je ne l'avais jamais chanté auparavant. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été enthousiasmé de pouvoir enfin l'interpréter. C'est un opéra très complexe de John Adams et d'Alice Goodman, sans oublier Peter Sellars. La question de Nixon pour un Américain est très difficile parce qu'il sera toujours associé au Watergate. Mais il y a d'autres aspects de Richard Nixon dont on peut lui donner crédit, notamment cet important événement mondial. C'est une relation complexe avec l'opéra. Je suis très heureux que nous le fassions. J'espère que nous le referons un jour ailleurs. Et je suis heureux qu'Alexander ne se limite pas à cet opéra. Il semble vraiment passionné par tout le répertoire américain. René le sait encore mieux que moi. Il y a tellement de merveilleux opéras américains qui sont écrits aujourd'hui et qui pourraient se faire à Paris.
C'est aussi pour vous une prise de rôle, René Fleming, ce Nixon in China ?
En fait, j'ai fait mes débuts à Santa Fe juste avant la pandémie. Alexander Neef venait d'être invité à venir de Santa Fe à Paris et il m'a demandé de venir chanter pour ses trois premières saisons. J'étais surprise et ravie. Je lui ai donné une liste d'opéras. Je lui ai dit, voyons ce qu'on peut faire. Et cet opéra figurait dans la liste. Il m'a dit qu'il pensait que nous pourrions faire celui-là. Et je suis une grande fan de John Adams. J'ai fait pression pendant un certain temps pour qu'on fasse quelque chose de son œuvre. J'aime tellement cet opéra. Le rôle est merveilleux. L'aria est si beau, avec une prose positive. Et il montre une bonne relation, finalement, entre la Chine et les États-Unis. Je pense que c'est intéressant de représenter cela maintenant, alors que la Chine et les États-Unis font de nouveau l'actualité. Et nous avons beaucoup de collègues chinois qui ont été fantastiques. Ils ont un talent incroyable, de grandes voix, une grande éthique de travail. Ce sont des collègues formidables, donc je suis ravie, absolument ravie d'être ici.
Et comment avez-vous préparé ces rôles du couple Nixon? Vous avez regardé des films d'archives? Vous avez essayé de vous inspirer des images que l'on avait de ces deux personnalités?
That's a very interesting question.
C'est vraiment une question très intéressante. Maintenant que la pièce a 25 ans, nous n'essayons plus de recréer des personnages spécifiques, qu'il s'agisse de Chou En Lai, Mao, Pat ou de Richard. Nous essayons certes de trouver des particularités qui correspondent à des gestes ou des idées reconnaissables. Mais l'idée n'est pas de recréer un événement historique, plutôt de raconter l'histoire de personnes qui ont eu des activités extraordinaires et un impact sur la civilisation. La plupart des opéras ont une base historique, mais je pense que le contexte devient moins important que l'effort humain. Et dans cet opéra, la relation entre Richard et Pat est très intéressante. Nous essayons de la mettre en valeur. Sinon, la préparation du rôle doit commencer par la partition et le livre. Selon moi, John est l'un des compositeurs rythmiques les plus inventifs de la fin du XXe siècle. Ce qui est extrêmement difficile pour les chanteurs, car ce n'est pas toujours le monde dans lequel nous vivons. C'était donc une grande préparation technique. Je suis assez âgé pour bien me souvenir des années Nixon. Cet événement s'est produit au moment où je me préparais à choisir des universités. J'étais complètement captivé par Henry Kissinger, qui, à l'époque, était l'homme politique le plus populaire d'Amérique. La préparation et l'ampleur de cet événement font donc partie intégrante de ma propre histoire.
La préparation a été amusante. C'est un plaisir de jouer des personnages qui ont existé de notre vivant. Et c'est plus pertinent, c'est plus facile de penser à devenir cette personne, finalement, que de revêtir un costume d'époque du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Avec, vous savez, des paniers et des grosses perruques. J'ai donc aimé lire le livre. Et il y a de nombreuses vidéos en ligne. J'ai eu un fabuleux entretien avec quelqu'un qui a travaillé avec eux pendant 5 ans, qui m'a raconté des histoires personnelles sur leur mariage et sur Pat, comment elle était. Nous voulions connaître leurs habitudes, leurs mouvements, leurs particularités et avoir des informations sur leur relation. Nous pourrons donc nous appuyer sur tout cela. Mais comme l'a dit Thomas, cette production n'est pas une recréation authentique de ce qu'ils étaient, bien sûr.
Alors, vous chantez ici un opéra américain moderne. Vous avez tous les deux un très large répertoire. Et vous êtes tous les deux très engagés dans la musique américaine, y compris la musique d'aujourd'hui. Quel regard portez-vous, justement, sur la musique américaine d'aujourd'hui ?
Thank you for that question.
René et moi sommes passionnés par la musique américaine et par la culture américaine, qui est bien plus intéressante que McDonald's, Starbucks ou d'autres personnes. Aujourd'hui, une grande partie de cette culture résiste à la vraie politique. Il existe toujours une communauté très dynamique qui raconte ce que c'est d'être américain. Quelle que soit sa culture d'origine, je pense que c'est un phénomène de l'Amérique que nous ne célébrons pas assez ou dont nous ne parlons pas assez. Nous parlons de la musique allemande, française ou italienne. Et si quelqu'un dit « Ah oui, et les Américains ?» Alors je dis « Attendez, de quels Américains vous parlez ?» Et je pense qu'il s'agit là d'une prise de conscience très importante de ce que l'on entend et de ce que l'on peut explorer dans la communauté américaine. Je pense que pendant le XXe siècle et maintenant le XXIe siècle, l'avant-garde américaine a remis l'accent sur la mélodie, la polyphonie et la polytonalité. Benjamin Britten a peut-être été le meilleur. Il a commencé dans les années 50. Je pense qu'il est possible d'être mélodique tout en étant complexe et artistique dans l'opéra. En Amérique, la question de la musique de théâtre est légèrement plus volatile et peut-être même plus œcuménique ou éclectique que ce à quoi les Européens sont habitués. Je ne vois pas beaucoup de différence entre une pièce sophistiquée de Broadway, d'Hamilton par exemple, et une pièce comme Nixon in China. La notion d'événements culturels théâtraux en Amérique est un domaine vraiment passionnant. Ce qui m'intéresse particulièrement en ce moment, c'est la redécouverte de l'énorme impact de la créativité de la communauté afro-américaine sur notre culture. C'est très récent, mais il y a un vrai mouvement dans ce sens, une vraie célébration. Des gens comme William Grant Steele, William Dawson, Florence Price, Margaret Bonds, pour n'en citer que quelques-uns. Ce sont des compositeurs et des musiciens majeurs du monde du classique américain, et il est grand temps de célébrer l'ensemble de notre culture de manière œcuménique et équilibrée.
Oui, je suis d'accord. Et j'ajouterai toutes les compositrices qui ont été enterrées. Selon moi, l'opéra en Amérique a été façonné par deux choses. D'abord, au début du XXIe siècle, de grandes, très grandes salles d'opéra ont été construites qui pouvaient accueillir 3000 à 4000 personnes. Et plus tard, il est devenu très difficile de vendre autant de billets. C'est en partie pour cette raison et aussi en partie parce que nous n'avons jamais reçu d'aide de l'État. Tout doit être financé de manière philanthropique par des mécènes. Nous savons que c'est la forme d'art la plus coûteuse parmi les arts de la scène classique. C'est donc devenu un énorme défi. Pour vendre des billets, il fallait s'adresser au public le plus large possible. Il fallait s'adresser au public le plus large possible, donc créer de la musique sophistiquée, mais aussi accessible au plus grand nombre. Je viens de participer à l'automne à un opéra intitulé The Hours de Kevin Putz, qui répondait à toutes ces exigences et qui est basé sur un film et un roman que les gens connaissent. C'est exactement ce que faisaient les compositeurs il y a 200 ans. Presque tous les opéras étaient basés sur des romans populaires. Donc, plus nous pourrons créer des points d'ancrage pour le plus grand nombre de personnes possibles aux États-Unis, plus nous aurons de succès. Je suis très enthousiasmée par le paysage classique. Il y a des tonnes de jeunes compositeurs qui ont un incroyable talent. Aujourd'hui, les gens peuvent composer tout simplement sur leur ordinateur. Ils n'ont pas besoin d'un orchestre. Ils peuvent sortir leur musique eux-mêmes. Ils n'ont plus besoin d'une maison de disques. Cela vraiment a changé la donne.
On a hâte de découvrir ces nouveaux compositeurs américains. Merci infiniment Thomas Sampson et René Fleming. On vous souhaite bonne chance pour cette production.
Merci. Plus heureuse encore à Paris. Merci.
Oui, merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci, merci infiniment.
Un air de Pat Nixon chanté par René Fleming. Nous avons entendu également tout à l'heure, entre autres, Thomas Sampson dans un air de Richard Nixon. Des extraits de la répétition générale de Nixon in China, dirigée par Gustavo Dudamel. Une production mise en scène par Valentina Carrasco à découvrir jusqu'au 16 avril à l'Opéra Bastille. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Diane Chambriard pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la violoniste Geneviève Laurenceau et du chef d'orchestre Benjamin Lévy. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.